Alors, je crois qu'on m'a... Il faut resélectionner le PowerPoint là-haut parce que je ne peux plus le passer. Merci. Seigneur, à nouveau, à présent que nous nous approchons de ta parole, Seigneur, nous voulons le faire vraiment avec un cœur bien disposé. Nous voulons le faire en prenant conscience que cette parole, c'est ta parole, parole de Dieu. Et que cette parole, elle est vivante. Que cette parole, ça n'est pas une parole morte, inerte. C'est une parole qui est là pour nous transformer, pour nous rejoindre dans nos vies, pour aller nous chercher là où nous nous trouvons. Nous savons aussi que nous avons besoin d'être bien disposés pour ça. Seigneur, je te prie de faire tomber maintenant nos résistances. Je te prie de ne pas permettre que l'ennemi nous détourne de ta parole. Je te prie qu'elle puisse être entendue et bien entendue, de façon à ce qu'elle puisse faire l'effet que toi, tu souhaites qu'elle fasse dans nos vies. Seigneur, nous sommes confiants parce que tu dis que ta parole ne revient pas à toi sans effet. Et donc, nous nous attendons à ce qu'il en soit ainsi. Et nous te remercions pour ce que tu vas faire ce matin. Amen. Alors, on va aller donc dans l'évangile de Jean, au chapitre 19, les versets 25 à 30. S'il y en a qui veulent suivre dans leur Bible, c'est là qu'il faut aller. Jean, chapitre 19, versets 25 à 30. Et sinon, voici ces versets. Auprès de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Et dès cette heure-là, le disciple la prit chez lui. Après cela, pour que l'Écriture soit accomplie, Jésus, sachant que déjà tout était achevé, dit « J'ai soif ». Il y avait là un récipient plein de vin aigre. On fixa à une tige d'hysope une éponge imbibée de vin aigre et on l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vin aigre, Jésus dit « Tout est achevé ». Puis il baissa la tête et rendit l'esprit. Alors voilà, on rentre là dans un moment difficile, bien sûr. Les plus attentifs d'entre vous auront peut-être noté que entre la parole « Femme, voici ton fils » et celle qui nous occupe aujourd'hui, on en a vu une autre qui n'apparaît pas ici, qui est « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Alors juste une petite parenthèse pour dire pourquoi est-ce qu'elle n'apparaît pas, cette parole, c'est parce que nous disposons de 4 évangiles, de 4 témoignages de ce qui s'est passé, et que lorsque 4 personnes regardent un même événement, ils n'en retiennent pas nécessairement les mêmes détails. Et donc, le nombre des paroles du Christ en croix, ainsi que l'ordre dans lequel elles ont été prononcées, en fait, est le fruit d'un recoupement des 4 évangiles par les théologiens. Cette petite introduction faite, on va se pencher sur le texte, parce que quand on élargit un petit peu le cadre autour de ce fameux « j'ai soif », on repère, me semble-t-il, quelques bizarreries. La première de ces bizarreries, la voici, il nous est dit au verset 28 que si Jésus dit « j'ai soif », c'est pour que l'Écriture soit accomplie. Ce qui soulève 2 questions, en tout cas moi ça m'en soulève 2 chez moi. La première c'est quelle Écriture, de quelle Écriture il s'agit. Et puis la deuxième c'est quoi cette façon de faire ? Enfin, c'est quand même étonnant, je trouve, de faire quelque chose pour que l'Écriture soit accomplie. Alors d'abord l'écriture. Jean fait référence ici en fait au psaume 69. C'est un psaume de David. Dans ce psaume, David prie Dieu et l'appelle au secours parce qu'il est persécuté. Il dit là son angoisse, sa souffrance, il parle de ceux qui le haïssent sans raison, il dit à quel point il se sent abandonné. Et au verset 22 de ce psaume, parmi les misères que ses persécuteurs lui font subir, David dit, pour apaiser ma soif, ils me font boire du vinaigre. Alors, on peut se dire d'accord, mais en fait, c'est quoi le rapport avec Jésus? On n'est pas a priori là sur une prophétie qui aurait annoncé que le Messie boirait du vinaigre sur la croix. On est sur David qui dit que ça lui arrive à lui. Alors, c'est quoi le rapport? Le rapport, c'est que David n'est pas tout à fait n'importe qui dans l'Ancien Testament. Il est une figure très particulière, on va le voir tout de suite. Déjà, David était berger. C'était un berger, avant de devenir roi, il était berger, il prenait soin de son troupeau, il le guidait, il le protégeait. David a été oint par le prophète Samuel pour être roi sur Israël, ce qui techniquement fait de lui un messie. Parce que messie, c'est un terme hébreu qui signifie oint, c'est-à-dire celui qui a reçu l'onction. David a été roi d'Israël, il a régné sur le peuple de Dieu. David était aussi un homme selon le cœur de Dieu, c'est ce qu'on lit en 1 Samuel 13, verset 14. David a connu la persécution, la souffrance, et puis il est ressorti finalement victorieux de ceux qui le persécutaient. Alors si on regarde tout ça, berger, messie, roi, homme selon le cœur de Dieu, persécuté, victorieux, franchement, ça ne vous rappelle personne? Un peu quand même, hein. Ça rappelle quelqu'un. Et en même temps, Jésus n'est pas tout à fait un berger, il est le bon berger. Jésus n'est pas un messie, il est le messie par excellence. Il est loin de Dieu, loin L'OINT, bien sûr. Ce qui se manifeste clairement lors de son baptême avec la venue de l'Esprit-Saint qui descend sur lui sous la forme d'une colombe, il reçoit l'onction de la part de Dieu le Père lui-même. Jésus n'est pas seulement un roi, Jésus est le roi du peuple de Dieu par excellence, il règne sur son peuple, et même un peu plus que sur son peuple, puisqu'il nous est présenté comme le roi des rois, le seigneur des seigneurs, il est le souverain. Jésus n'est pas seulement un homme selon le cœur de Dieu, il est celui dont Dieu dira « Celui-ci est mon fils bien-aimé, celui qui fait toute ma joie ». Jésus n'a pas été seulement persécuté, il est là encore le persécuté par excellence, lui le juste au milieu des injustes. Et Jésus n'a pas été seulement victorieux sur ceux qui le persécutaient, il a remporté la victoire sur le péché et sur la mort pour le monde entier. Et tout ceci nous amène à voir en David ce qu'on appelle en théologie un type du Christ. Alors un type, c'est quoi? C'est comme une empreinte, c'est une trace, un peu comme quand vous marchez dans la neige, il y a des traces qui se font, on voit que quelqu'un est passé par là. Et en regardant la vie de David, on voit à bien des endroits l'empreinte du Messie qui devait venir. La vie de David est comme une ombre de la réalité à venir qui est en Jésus-Christ. Alors David, très probablement lui-même, n'en a pas conscience. Lui, il vit sa vie, c'est tout. Hein. Il ne se rend pas forcément compte du fait que voilà, ce qu'il dit, ce qu'il annonce, annonce le Messie à venir, ce qu'il vit également. Mais les apôtres, qui eux ont accès à l'ensemble de la révélation, ont du recul sur l'histoire, en ont bien conscience, eux. Et enfin, connaisseur de la parole, l'apôtre Jean, qui voit comment on donne du vinaigre à Jésus sur la croix, fait tout de suite le lien avec le psaume de David. Et pour Jean, ça vient marquer une fois de plus que rien de ce qui s'est passé, pas même la croix, n'a été hors du contrôle de Dieu. C'était prévu. Il est souverain, Dieu règne. Si Jésus dit « j'ai soif », c'est pour que l'Écriture s'accomplisse et qu'elle atteste de cette vérité. Jésus est bien le Messie annoncé par les prophètes. Jésus est bien le Messie attendu par le peuple. Donc ce n'est pas que Jésus dit « j'ai soif » pour que l'Écriture soit accomplie, c'est bien l'inverse, c'est pour que l'Écriture soit accomplie que Jésus dit « j'ai soif ». Le fait qu'il le dise vient attester encore un peu plus que c'est bien lui le Messie. Mais évidemment, si Jésus dit qu'il a soif, c'est aussi, devinez quoi, parce que il a soif. Il a soif. Et ça, en fait, c'est assez important parce que figurez-vous qu'au 1er siècle, il y a une controverse au sujet de Jésus qui a, je crois, de quoi nous étonner aujourd'hui. Jésus a soif. Et s'il a soif, c'est parce qu'il est un être humain fait de chair et de sang. Alors je sais que j'enfonce là une porte ouverte, encore que, aujourd'hui, on entend parfois quelques hurluberlus dire que Jésus n'aurait pas existé. Et je me permets ce terme d'hurluberlu, parce que vraiment, c'est le cas. les historiens affirment l'inverse. On a le témoignage des évangiles, bien sûr, qui est un document historique comme un autre, qui n'a aucune raison d'être écarté, surtout vu le nombre de copies dont on dispose et qui attestent de la fiabilité des documents originaux. Mais on a aussi des sources extra-bibliques qui datent de l'Antiquité, qui attestent de l'existence de Jésus. Par exemple, vous avez Tacite, qui était un historien, vous avez Suétone, qui était un haut fonctionnaire romain, qui mentionne Jésus dans leurs écrits. Vous avez également Flavius Joseph, qui était un auteur juif, qui a écrit un grand livre historique quelques années après la vie de Jésus, qui s'appelle « Les Antiquités juives », et dans lequel il écrit ceci. Hop là, voilà. « En ce temps-là, paraît Jésus, homme sage, si toutefois il faut l'appeler homme, car il était l'auteur d'œuvres prodigieuses, le maître des hommes qui reçoivent avec joie la vérité. Il entraîna beaucoup de juifs et aussi beaucoup de grecs. » Et Flavius Joseph se fait l'écho de la vie, de la passion et de la résurrection de Jésus. Et on a même encore mieux que ça, parce qu'on a aussi des sources rabbiniques qui parlent de Jésus. Et ça, c'est très intéressant, parce que ce sont des sources qui sont complètement adverses à Jésus. Le Talmud parle de Jésus. Le Talmud, c'est une compilation des discussions rabbiniques autour de la législation, de l'éthique, des coutumes et de l'histoire des Juifs. Et le Talmud parle de Jésus, parle de ses miracles, parle de sa prétention à être Dieu, parle de sa prétention à revenir une deuxième fois, entre autres choses. Alors autant vous dire que si Jésus n'avait pas existé, ses opposants n'auraient pas manqué de nous le faire savoir. Mais ils ne l'ont pas fait, et ils ne l'ont pas fait parce que si vous pouvez essayer de nier l'existence de quelqu'un 2000 ans après sa mort, c'est évidemment un petit peu plus tendu de le faire quand les témoins oculaires sont encore en vie. La réalité, c'est qu'il existe plus de sources alternatives pour Jésus que pour n'importe quel autre personnage de l'Antiquité. Par contre, la question qui se posait au 1er siècle, on la voit transparaître dans l'écrit de Flavius Joseph que j'ai lu tout à l'heure. « En ce temps-là, paraît Jésus, dit Flavius Joseph, homme sage, si toutefois il faut l'appeler homme, car il était l'auteur d'œuvres prodigieuses. » Le débat n'était pas de savoir si Jésus avait existé, évidemment, il était plutôt de savoir quel genre d'être était Jésus, en fait. Est-ce qu'il faut même l'appeler homme ? Était-il un être humain ? Et c'est un sujet que l'apôtre Jean a particulièrement à cœur, celui-là. C'est cela qu'il a en tête quand il dit en 1 Jean 4, verset 2, « Que tout esprit qui reconnaît Jésus-Christ venu en chair est de Dieu, et tout esprit qui ne reconnaît pas Jésus n'est pas de Dieu. » La Bible du Semeur traduit ce même verset par ce qui est écrit dans mon dos, « Tout esprit qui reconnaît que Jésus-Christ est devenu véritablement homme vient de Dieu. » Pourquoi ? Eh bien parce qu'il y avait des prophètes de mensonges, c'est Jean qui les appelle comme ça, qui séparaient l'homme Jésus du Christ, comme s'il y avait là deux personnes distinctes, et le Christ serait venu investir l'homme Jésus à un certain moment de sa vie, puis l'aurait quitté ensuite. Et ce n'est pas comme ça que la Bible nous parle de Jésus. Elle nous le présente dans des termes qui ne manquent pas de paradoxe, puisqu'elle nous le présente comme étant tout à la fois pleinement homme et pleinement Dieu. 100% homme, 100% Dieu. Alors ça ne marche pas, encore une fois, dans nos têtes, hein, parce que 100% plus 100%, ben ça fait 200%. Ça ne marche pas, mais c'est comme ça que ça nous est présenté. Donc on ne manque pas effectivement d'occasion de s'interroger sur l'articulation entre ces deux natures de Jésus, sa nature humaine et sa nature divine. Il y a des textes parfois où on se pose un peu la question, voilà, de comment ça fonctionne. Il y a là quelque chose qui est encore une fois de l'ordre du mystère et duquel on fait bien de s'approcher avec humilité. Mais ce qu'on ne peut pas faire, c'est, et pardonnez-moi l'expression, c'est saucissonner Jésus en disant bah, « là il était homme, là il était Dieu ». En fait, il était l'un et l'autre, pleinement et tout le temps. Et ici, dans notre texte, sa pleine humanité se manifeste à travers ce « j'ai soif ». Jésus, oui, était de nature divine. Néanmoins, il a pleinement souffert à la croix. Il était pleinement homme. Comme le dit l'expression populaire, il a bu le calice jusqu'à la lie. Et cette expression populaire, elle vient de là, le psaume 75. Ce psaume 75 nous parle du jugement de Dieu, nous parle de comment les injustes auront à boire un vin mauvais, un vin qui a tourné, un vin aigre, pourrait-on dire, jusqu'à la dernière goutte. Parce que c'est bien là la place que Jésus a pris volontairement à la croix, celle des pécheurs que nous sommes. Et c'est lui qui boit ce vin mauvais de la condamnation à notre place, jusqu'à la lie. Ces souffrances nous rappellent, comme le dit Hébreux 4, verset 15, que nous n'avons pas un grand prêtre insensible à nos faiblesses. Il a été soumis, sans péché, à des épreuves en tout point semblables aux nôtres. Et donc ce verset nous invite également en disant « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce pour obtenir compassion et trouver grâce en vue d'un secours opportun. » Il y a parmi nous des gens qui souffrent. Et c'est à eux que je m'adresse maintenant. Sachez que ça n'est pas seulement que Jésus a souffert avant vous et qu'à ce titre il vous comprend, qu'il est sensible à ce que vous vivez, comme pourrait l'être un ami ou même un frère ou une sœur dans le Seigneur qui serait passé par les mêmes épreuves que vous. Ça, c'est déjà quelque chose, évidemment, de très précieux, mais ça n'est pas que ça. Ça n'est pas qu'une amitié ou qu'une compassion de Dieu à votre égard. En fait, c'est beaucoup plus grand que ça. Jésus ouvre ici une voie sur la croix. Il est le premier de cordée d'un chemin que nous avons tous à arpenter un jour ou l'autre. Parce que, sauf à ce que Jésus revienne avant, je vous l'annonce, nous allons mourir. Et avant de mourir, probablement, nous allons souffrir. Bien sûr, la vie n'est pas que ça, mais il n'en demeure pas moins qu'au long de notre vie, nous allons traverser des moments de souffrance. Et notre propre mort sera peut-être un de ces moments-là. Il est possible que dans notre vie, nous traversions des moments où nous aurons peut-être même un sentiment d'abandon de la part de Dieu. Lorsque nous passons par des moments comme cela, on aspire évidemment très légitimement à en sortir. Et nos regards se tournent vers un miracle. Et c'est légitime. C'est légitime parce que nous savons que Dieu peut tout. C'est légitime parce que nous savons que Dieu peut nous guérir. Et en fait, en vrai, il le fait la plupart du temps. En réalité, de toutes les maladies et de toutes les épreuves que nous traversons au cours de notre existence terrestre, il n'y en a jamais qu'une qui nous emporte, la dernière. Mais Jésus, par sa mort à la croix, nous rappelle tout de même ce qu'il avait déjà annoncé. Il y a une croix. Il y a une croix pour lui, il y a une croix pour chacun d'entre nous. Et la résurrection qui nous est promise est intrinsèquement liée à cette croix. Alors, évidemment, tout notre être se révolte à cette idée, parce qu'il y a en nous un instinct de vie que Dieu lui-même, je crois, a mis en nous. Il faut voir comment les mourants s'accrochent à la vie jusqu'à leur dernier souffle. Mais si notre foi n'intègre que la résurrection, mais pas la croix, que la guérison, mais pas la réalité de la mort à venir, alors en fait, elle n'est pas à la hauteur des promesses de Dieu, et surtout, on va se retrouver pris au dépourvu quand la souffrance viendra frapper à notre porte. Quelqu'un a dit un jour que la foi, c'est être fidèle dans les ténèbres à ce qu'on a vu dans la lumière. À la croix, si Jésus a ressenti tout le poids de la séparation d'avec le Père, il n'a pour autant jamais perdu de vue ce qui était à venir. Et ça, on le sait parce qu'au milieu de sa souffrance, il continue de s'adresser au Père. Il continue de s'adresser au Père. Alors que les ténèbres s'étendent sur le monde en ce jour funeste, c'est le vin aigre de la souffrance et de la mort qui est tendu à Jésus au bout de cette branche d'hysope. Mais ce vin aigre en appelle un autre qui est là, en ligne de mire, et qui est le vin nouveau, dont Jésus a dit à ses disciples qu'ils le boiraient ensemble dans le royaume du Père. Quand on traverse des heures sombres, notre part, et elle n'est pas simple, elle n'est vraiment pas simple, notre part consiste à rester fidèle dans les ténèbres à ce qu'on a vu dans la lumière et à tourner notre regard vers le royaume à venir, celle du vin nouveau, de la terre nouvelle, celui où toute larme sera essuyée de nos yeux par Dieu lui-même, celui où il ne se fera plus ni tort ni dommage sur toute l'étendue de la montagne sainte parce que la terre sera couverte de la connaissance de l'Éternel. J'ai soif, dit Jésus. J'ai soif. Par ces trois mots et par le vin aigre qui lui est fourni, Jésus nous rappelle que tout est sous contrôle. L'Écriture s'accomplit. Par ces trois mots et par le vin aigre qui lui est fourni, Jésus montre à quel point il est proche de nos propres souffrances. Par ces trois mots et par le vin aigre qui lui est fourni, il oriente déjà notre regard vers le royaume à venir, celui où coulera un vin nouveau, celui où nous n'aurons plus jamais soif. Bien sûr, soyons dans l'espérance de l'intervention miraculeuse de Dieu. Mais entrons aussi dans cette foi qui porte dès à présent son regard vers le royaume à venir, royaume duquel nous sommes déjà participants de bien des manières. Je vais prier. Seigneur, il y a des souffrances dans ce monde et nous, tes enfants, nous n'en sommes pas épargnés. Nombre d'entre nous passons par un chemin de souffrance en ce moment même, passons par des difficultés qui peut-être nous paraissent inextricables, insurmontables. Nous nous attendons à toi dans cette traversée, dans ce moment où nous sommes dans la vallée de l'ombre de la mort, nous nous attendons à toi. Seigneur, parce que tu as souffert avant nous, nous savons que tu es là, que tu es à côté de nous, que tu nous devances, que tu nous as devancés sur ce chemin. Nous savons que tu es tout proche, que nous le sentions ou que nous ne le sentions pas. Nous voulons saisir cette vérité par la foi. Tu es tout proche. Tu n'es pas loin. Seigneur, nous savons que ton royaume peut faire irruption dans notre vie. Nous savons que tu es capable d'un miracle. En même temps, Seigneur, ce que nous attendons, c'est la proximité avec toi. Et nous voulons aussi avoir un regard qui porte plus loin, qui porte vers les réalités encore à venir, qui sont des promesses fermes, aussi fermes que toi marchant sur la terre au milieu des hommes, aussi fermes que toi relevant le faible. Nous voulons porter notre regard vers le royaume à venir et avancer dans ce chemin, dans cette vallée de l'ombre, avec confiance, avec espérance. Aujourd'hui, c'est le vin aigre, nous savons qu'il y aura du vin nouveau. Seigneur, si tu nous donnes à boire de ce vin nouveau dès maintenant, alléluia, on s'en réjouit. Mais quoi qu'il en soit, nous savons qu'il viendra. Nous savons qu'il viendra. Seigneur, je te prie pour chacun d'entre nous, ceux qui souffrent et ceux qui, en ce moment, sont dans une situation qui va bien, qui fonctionne bien, pour que nous puissions entrer dans ces profondeurs-là, qui ne dépendent plus tellement des circonstances, mais qui dépendent de toi seul, de toi qui règnes au-dessus de tout, de toi qui es présent tout le temps, de toi qui nous accompagne dans tout ce que nous vivons et de toi qui nous donne une espérance qui va bien au-delà de cette seule vie humaine que nous vivons ici-bas, dans une terre dont nous savons qu'elle est fracassée par le péché. Seigneur, notre espérance, elle est vers ton royaume où nos larmes seront séchées par toi-même, où il n'y aura plus ni mal ni douleur. Seigneur, que cette vision-là puisse nous porter dans les temps d'épreuve. Nous porter vraiment, Seigneur, que nous puissions nous l'approprier comme une réalité déjà présente pour nous-mêmes, parce qu'elle est là en espérance. Seigneur, je veux aussi te prier pour celles et ceux qui parmi nous ne t'appartiennent pas encore, parce qu'ils ne te connaissent pas, qui n'ont pas cette espérance, qui n'ont nulle part où s'accrocher pour traverser leurs difficultés. Seigneur, je te prie de prendre pitié d'eux. Je sais que tu n'es pas loin d'eux aussi, Seigneur. Mais il y a sans doute des résistances dans leur cœur. Il y a encore de l'incrédulité. Seigneur, qu'ils puissent vivre de cette vision à venir, Seigneur, en te reconnaissant pour ce que tu es, c'est-à-dire Seigneur et Sauveur. Tu viens nous chercher là où nous nous trouvons. Personne n'est assez loin pour que tu ne puisses pas l'atteindre. Seigneur, nous t'avons demandé d'ouvrir nos cœurs à la lecture de ta parole tout à l'heure. Eh bien, entre maintenant dans ces cœurs qui sont ouverts et permets-leur d'entrer dans cette espérance glorieuse qui nous permet de voir bien au-delà de cette seule vie terrestre et qui nous porte dès à présent dans nos circonstances actuelles. C'est au nom de Jésus que je te prie. Amen.